Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Alors aujourd'hui, pas de billets, car de texte, il y en aura bien assez. Allons directement dans le vif du sujet. Le vivant, c'est aussi le spectacle vivant, mis à rude épreuve durant les longs mois d'un hiver culturel forcé par la crise sanitaire. Les relations entre la nature et la ville sont empreintes de culture. Songeons à Hortus, le jardin, équilibre entre l'humain et son lopin de terre. Oui, je sais, avec son vieil arbre tordu au milieu. Les vacances qui approchent sont, cette année encore, très attendues, comme une parenthèse de réconfort au milieu de l'incertitude. Pour vous accompagner avec douceur sur ce chemin de villégiature, nous aurons, durant cette petite heure, le plaisir de partager avec vous des lectures. Ensemble, nous allons parcourir des textes empruntés à la littérature, qu'il s'agisse de romans, d'essais, de chansons, de fables ou de pièces de théâtre. Pour cette balade sonore estivale, j'ai le plaisir de recevoir un artiste. Notre invité est tout à la fois auteur, scénariste, comédien, metteur en scène, formateur, voix off, chanteur, n'en jetez plus. Il est là, devant nous, avec sa barbe, ses cheveux en arrière. Il est surtout là avec son phrasé que vous pourrez bientôt écouter, avec cette voix que vous connaissez sans doute, sans forcément la nommer, avec ce très léger chuintement, cette signature sonore qui le rend si charmant, vocalement j'entends. Avec lui, on a envie d'être...
Tous unis contre la vie chère.
L'histoire ne dit pas s'il est un missionnaire de la drague, je l'avoue. Il n'a pas non plus, je crois, la poupée d'E.T. dans sa Golf GTI, même s'il a pris sa voiture pour nous rejoindre de sa Normandie, en temps et, oserais-je le dire, en heure. Car notre homme vit et vibre côté jardin, même si à la scène il est souvent citadin. Il n'est pas, je crois, du genre machistador, mais ce titre de M, dont je viens de lire quelques paroles, servit de générique à la série qu'il a créée et dans laquelle il jouait le rôle titre entre 1998 et 2001, un temps que les moins de 20 ans, de fait, ne peuvent pas connaître. Cette série, c'était Blague à part, diffusée sur Canal+, où il collabora aussi, notamment avec Carl Zéro. Blague à part ? Pas vraiment, car il est souvent question d'humour avec cet éclectique qui excelle entre autres dans la comédie, sur les planches comme sur les ondes, où il est sociétaire, s'il vous plaît, des grosses têtes. Il a tour à tour joué le rôle de joyeux érudit sous le règne du roi Philippe Bouvard, et aujourd'hui, il est toujours aussi savant, mais aussi préposé aux accents du monde et des régions sous la présidence de Laurent Ruquier. Né à Cognac, il ne porte guère de charentaise, toujours à courir d'un projet à l'autre. Il chante actuellement Reggiani, avant de fouler à nouveau, je crois, les planches pour jouer une pièce de Guitry, N'écoutez pas, mesdames, dans une mise en scène de son ami Nicolas Briançon. Récemment encore, il a donné sa voix à l'exceptionnelle, je le dis, exposition Pierre Dac du côté d'ailleurs au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Loufoque, il sait l'être et le sera peut-être aujourd'hui, nous verrons. Formé au Conservatoire national de Bordeaux, est-ce pour cela qu'il est aussi fin gourmet ? Il est en effet membre de la confrérie des Périgourmands et un de ses derniers faits d'armes, chevalier du Tatevin. Il est avec nous, on est bien. Bonjour, Éric Legérias.
Bonjour, Pierre.
Alors, vous l'aurez compris, Éric, à travers ce portrait, un brin foutraque, pas très objectif, car votre voix me berce depuis l'adolescence. En un mot, j'adore. Allez !
Nature urbaine, l'interview, première partie.
Eh oui, le choc des sons, le poids des mots, c'est une nouvelle devise entre Guns N' Roses et Machistador de M.
J'adore.
Le générique, j'adore, de Blague à part. Alors pourquoi une édition spéciale de Natures urbaines consacrée à la lecture de textes ? Quel rapport avec la faune, la flore, les paysages, la ville, l'immobilier, les jardins et celles et ceux qui les cultivent ? Alors la réponse nous est fournie par Yves-Marie Alain. Le chef des fleurs, comme l'appelait sa fille, Yves-Marie Alain, ingénieur horticole, paysagiste, qui fut entre autres ancien directeur du Jardin des Plantes à Paris, mais aussi un excellent libraire, nous donne l'explication qui sert de prétexte à cette émission dans son ouvrage « Le jardinier en 100 citations », publié en 2017 par les éditions Petit Génie, extrait choisi, lu par vous, Éric Legérias.
Plus que tout autre métier, dans de très nombreuses civilisations anciennes ou contemporaines, le jardinier est un personnage littéraire. Depuis des millénaires, il est présent au point qu'il est possible de se demander s'il existe réellement ou si ce n'est qu'un personnage de conte, de mythologie, de légende. Après une longue période d'oubli, voire de mépris pour cet homme de la terre n'appartenant ni au monde des paysans, ni vraiment à celui de la ville, Le jardinier est, depuis quelques années, sous le feu des projecteurs. Qui donc est ce jardinier, celui qui croit en l'avenir de ce qu'il a entrepris, celui qui croit à la richesse incommensurable de ce substrat qui fait sommeiller, dormir, puis réveiller graines et bulbes, bourgeons et boutons.
Poursuivons, Éric, avec un auteur dont nous sommes tous deux de grands amateurs, avec un extrait d'un récit autobiographique que nous avons déjà cité ici, c'est un petit peu plus loin, dans cette émission, Le vin bourru du regretté Jean-Claude Carrière, à la fois le plus ancré dans son héros natal et le plus ouvert sur le monde des écrivains et scénaristes modernes. C'est paru chez Plomb en 2000. Et dans le chapitre « Ce que l'on apprend d'abord », il nous parle de la force de la terre.
Le plus tôt possible, on apprend à l'enfant à ouvrir la terre, à y déposer des graines, à refermer et à attendre. On lui fait sentir comment la terre peut être chaude, comme un animal, ou froide, ou sèche, ou caillouteuse. Les adultes l'emmènent à deviner, avec des gestes et des mots très simples, que dans cette terre se tient une force extraordinaire, mère de miracles, et qu'il peut disposer s'il le veut bien de cette force. Elle est là, sous ses pieds, elle n'attend que lui. Si nous savons l'aménager, cette force est inépuisable. On fait aussi découvrir à l'enfant, le plus tôt possible, l'alliance de la terre et de l'eau. On lui montre que la vie naît de cette alliance, toute la vie, et d'abord celle des navets, des carottes. Il commence par eux, par le plus facile. Un enfant ne plante pas d'arbres car il n'aurait pas le temps d'en cueillir les fruits avant d'être un homme. Un enfant plante des légumes et des fleurs. Ses parents lui réservent un bout de jardin, 2 ou 3 mètres carrés qui sont à lui, et lui prêtent des semences qu'il devra rendre après qu'il aura récolté. Qui n'a pas vu, à l'âge de 5 ou 6 ans, la terre s'entrouvrir au printemps pour laisser apparaître une petite chose verte, presque imperceptible, en entendant la voix de son père lui dire « Tu vois, c'est les radis que tu as semés. » Qui n'a pas vu de jour en jour cette plante grandir et d'autres pousser autour d'elle, verdissant rapidement le coin de jardin, ne sait pas vraiment ce qu'est cette force sur laquelle tous nous marchons.
Alors ne nous méprenons pas, Jean-Claude Carrière n'a jamais été un passéiste épris d'une nostalgie rance. Il disait d'ailleurs que l'assertion pétainiste « la terre, elle, ne ment pas » était mensongère, car les aléas du vivant réservaient de sournoises surprises à qui se penchait sur la glèbe. Alors aborder les cultures potagères pourrait nous inciter à parler d'agriculture urbaine. Ça y est, le gros mot est lâché. N'oublions pas que l'autonomie alimentaire de Paris serait actuellement de 2 journées. Au centre du système alimentaire, il y a le marché d'intérêt national de Rungis. Bien des projets de relocalisation agricole existent. Et souvenons-nous qu'autour de Paris s'étendait, en lieu et place de la première couronne aujourd'hui urbanisée, une ceinture maraîchère. Plongeons donc dans le ventre de Paris, ainsi que l'on nommait jadis les Halles, un roman très gai, paru en 1873. C'est un roman de Zola, l'histoire commence ainsi.
Au milieu du grand silence et dans le désert de l'avenue, les voitures de maraîchers montaient vers Paris avec des cahots rythmés de leurs roues, dont les échos battaient les façades des maisons endormies aux deux bords, derrière des lignes confuses des ormes. Un tombereau de choux et un tombereau de pois, au pont de Neuilly, s'étaient joints aux 8 voitures de navets et de carottes qui descendaient de Nanterre. Et les chevaux allaient tout seuls, la tête basse, de leur allure continue et paresseuse, que la montée ralentissait encore. En haut, sur la charge des légumes, allongés à plat ventre, couverts de leur limousine à petites raies noires et grises, les charretiers sommeillaient, les guides au poignet. Un bec de gaz, au sortir d'une nappe d'ombre, éclairait les clous d'un soulier, la manche bleue d'une blouse, le bout d'une casquette, entrevue dans cette floraison énorme de bouquets rouges, de carottes, des bouquets blancs de navets, des verdures débordantes, des pois et des choux. Et, sur la route, sur les routes voisines, en avant et en arrière, des ronflements lointains de charrois annonçaient des convois pareils, tout un arrivage traversant les ténèbres et le gros sommeil de 2 heures du matin, berçant la ville noire du bruit de cette nourriture qui passait. Balthazar, le cheval de Madame François, une bête trop grasse, tenait la tête de la file. Il marchait, dormant à demi, dodelinant des oreilles, lorsque, à la hauteur de la rue de Longchamp, un sursaut de peur le planta net sur ses quatre pieds. Les autres bêtes vinrent donner de la tête contre le cul des voitures et la file s'arrêta, avec la secousse des ferrailles au milieu des jurements de charretiers réveillés.
Et à ce moment précis de l'histoire, nous allons procéder à une petite coupe. C'était Florent, échappé du bagne à Cayenne, le malheureux héros de notre histoire, qui erre dans les rues depuis Courbevoie et qui barre la route à la maraîchère, Madame François, qui, elle le dit plus tard, est installée à Nanterre. Elle va le conduire dans sa charrette et elle lui demande à plusieurs reprises où il va.
« Et où alliez-vous dans Paris ? » demanda-t-elle de nouveau. Il ne répondit pas tout de suite. Cet interrogatoire le gênait. Il parut se consulter, puis en hésitant, par là, du côté des Halles. Il s'était mis debout, avec des peines infinies, et il faisait mine de vouloir continuer son chemin. La maraîchère le vit, qui s'appuyait en chancelant sur le brancard de la voiture. « Vous êtes là ?»«
Oui. »«
Bien là, » murmura-t-il. Alors elle prit une voix brusque et comme mécontente. Elle le poussa en disant « Allez vite, allez, montez dans ma voiture. » Vous faites perdre du temps, là. Je vais au hall. Je vous déballerai avec mes légumes.
Alors, sur une note un petit peu plus gaie, cher Éric, j'ai oublié une question qui est essentielle. Vous avez un jardin, puisque bien avant le confinement, vous avez fait le choix de vivre à Vernon, dans l'Eure. Alors, vous êtes au cœur des préoccupations modernes, puisque d'après un sondage récent de l'IFOP pour l'association Ville de France, 30% des actifs résidant dans de grandes agglomérations envisageraient aujourd'hui de déménager de leur logement actuel. Et pour près de la moitié de ceux qui l'envisagent, le lieu de destination serait une ville moyenne. Pour quelles raisons avez-vous franchi le périphérique et qu'est-ce que cela vous procure, Éric ?
C'était il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans maintenant, je venais de terminer le tournage de Blague à part, qui est une série qui m'a occupé, très occupé pendant 3 ans. Et je vivais à l'époque avenue Trudaine et j'ai vécu 3 ans entre l'avenue Trudaine et la plaine Saint-Denis où on a enregistré l'émission. J'en avais un peu marre. Nos fils étaient tout jeunes et on s'est aperçu que le seul horizon de verdure qu'ils avaient, c'était le square d'Anvers, qui était très mignon, mais très petit. Et mon épouse et moi, nous sommes des provinciaux, comme la moitié ou peut-être plus de Parisiens. Donc, on avait envie d'offrir à nos fils la vie qu'on avait eue, nous, enfants, dans des petites villes de province, ces vies d'enfants... où on prend son vélo pour aller voir les copains, où on part tous ensemble se balader en forêt, ou aller faire un match de foot, où on peut monter à cheval, jouer au golf, au rugby. Enfin, voilà, ils ont pu faire ça à côté de Vernon, à Gaillon. Il y a un golf municipal de 9 trous, très sympa, qui coûte 10 fois moins ou 20 fois moins qu'un golf à Saint-Cloud ou à Saint-Cucufa. Et voilà, donc ils se sont mis à jouer au golf avec des copains voilà, de tout milieu. C'était vraiment quelque chose de... C'est pour ça qu'on est parti là-bas. C'était pour leur donner cette enfance-là et pour nous vivre aussi une vie plus calme, plus tranquille. Ma femme est décoratrice d'intérieur. Elle s'est occupée de beaucoup de maisons entre Passy, Vernon, Giverny. Et moi, bah, j'ai fait la route. Voilà, c'est une contrainte un peu pénible au début. Et puis on s'habitue, c'est moins d'une heure de route. Y a des gens qui habitent beaucoup moins loin, qui mettent beaucoup plus de temps pour rentrer chez eux. Donc finalement, c'est pas très compliqué. La SNCF est un peu fâchée avec Vernon et Rouen, avec cette ligne-là qui est souvent en retard, qui n'a pas beaucoup de trains. Mais il se trouve que Vernon a le bonheur d'avoir Sébastien Lecornu, ministre anciennement des
collectivités territoriales,
territoriales et maintenant des Outre-mer. Mais à l'époque, il a beaucoup fait pour que la ligne soit plus régulière. C'est bizarre, dès qu'un ministre met son nez là-dedans, ça se passe beaucoup mieux. Donc les trains sont plus nombreux, ils roulent plus à l'heure. Et malgré tout, moi j'ai pris l'habitude de la voiture depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'après 20h, 21h, il n'y a plus de train. Donc pour rentrer du théâtre, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai pris l'habitude de la voiture. J'attends encore
Je crois que j'ai un peu une mémoire assez longue, donc je crois que c'est depuis Jacques Chirac qu'on nous promet aux quatre coins de Paris de grands parkings gratuits qui permettront aux gens qui arrivent d'assez loin, et on est assez nombreux à venir tous les jours à Paris, de poser leur voiture et de prendre les transports en commun. Cette promesse formidable a été refaite par Jean Tiberi, par Monsieur Delanoë, par Anne Hidalgo, et en fait, ils ne sont jamais apparus, ces parkings, donc on les attend.
Eh bien, l'invitation est lancée. L'injonction, dirais-je, peut-être, à vous entendre, pour les auditrices et les auditeurs de Radio Immo et de Radio Territoria, il y a probablement des spécialistes du sujet. Et d'ailleurs, vous allez voir la transition. Nous ne pouvons pas passer à côté d'un auteur auquel vous avez consacré un spectacle en 2015 avec Jean-François Vinci-Guerra. C'est « On n'arrête pas la connerie » de Jean-Yann.
Oui.
Jean-Yann, à qui on attribue cette citation apicole en un mot, « J'ai la faculté d'assimiler la connerie ambiante comme les abeilles butinent les fleurs et prennent le pollen pour en faire leur miel. » Alors, sans vouloir froisser le roi Jean, on n'est pas à une approximation près puisque le miel est fait à partir du nectar. Mais Jean-Yann, inclassable auteur, comédien, éminente voix des ondes, comme vous, sociétaire des crânes enflés, écrivit un pamphlet dont il avait le secret, à écouter au premier degré, cela va de soi. Et donc, nous sortons du cœur de la ville pour rallier la campagne et ce qu'elle a de plus beau, ce que vous appelez de vos voeux autour de Paris, les parkings. Alors, j'ai emprunté ce texte à un recueil, vous savez, de ceux qui ornent les têtes de gondole et les pages idées cadeaux des sites de e-commerce, qui est justement intitulé « On n'arrête pas la connerie », qui est paru en 2007 aux éditions du Cherche Midi. Éric, c'est à vous.
Un très bon recueil de textes. Il y a, et je peux vous le prouver, nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous vers 8 heures en apportant son manger, il y a dans les départements de la Marne, de l'Ardèche, de la Lozère, de la Sarthe, de la Meurthe-et-Moselle, du Lot-et-Garonne et, pourquoi ne pas le dire, dans la presse totalité des départements français, dans la presque totalité des départements français, des parkings immenses, spacieux, aérés et fort bien desservis par les routes nationales, des voies d'intérêt secondaire et des chemins vicinaux. Mais de répugnants individus, de dégoûtants personnages, de crapuleux quidam sabotent ces parkings en y creusant des sillons à l'aide de machines spéciales tirées par des tracteurs, en retournant la terre pour la réduire à l'état de champ où ils font pousser uniquement pour en tirer des profits personnels du blé, du seigle, de l'avoine, du trèfle et même souvent de la betterave. Ces gens font partie, évidemment, du monde paysan. Le gouvernement le sait, et on peut le dire, le président de la République est au courant, lui qui ne cesse de se déplacer en voiture d'une région de France à l'autre. Alors, les pouvoirs publics ne feront-ils donc rien pour empêcher ces abus ? Hélas, non. Sans aucun doute. Car on a vu déjà maintes fois leur attitude larvaire et leur faiblesse de caractère dès qu'il s'agit d'entrer en lutte avec les représentants du terroir. Non, les pouvoirs publics ne feront rien. Et les paysans, labourant les parkings pour y planter des céréales, continueront à nous narguer le long des routes. Nous continuerons à les voir, le dos courbé, biner leur salsifis, ou glaner le muscle saillant, ses radis roses à bourron, ou ses carottes nantaises à fan convexe, lorsque nous partirons, nous, habitants des villes, vers les plages de juillet. Nous serons, mais nous serons, que cette situation n'existe que par le manque de courage de ceux qui nous gouvernent. Et il nous restera l'espoir qu'un jour, le ciel punisse les méchants et déverse sur les parkings ainsi détournés par les spéculateurs abusifs un déluge de soufre et de feu, comme le fit jadis sur Sodome et Gomorre. Alors, je me dresserai, fier et ému, face à l'horizon nouveau. Une larme coulera sur ma joue burinée par des soirées de veille, tandis que de ma gorge serrée s'élèvera une dernière fois cette phrase que je vous crie en cet instant malgré les pressions et les menaces. Il y a en France un scandale qui nous couvre de honte. Il y a en France des gens qui sabotent les parkings.
Eh bien, c'est dit. Laissons maintenant la parole à deux grands Jacques qui ne se sont pas forcément illustrés dans le registre écolo. Il s'agit de Jacques Lanzmann, le parolier, et de Dutronc, le bien nommé.
De grâce,
de grâce, monsieur le promoteur,
De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs.
Est-ce qu'on l'écoute ? On y va.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui aura vert de...
Alors vous pourrez l'écouter sur le chemin des vacances en entier. À propos d'aménagement urbain, Jean-Marie Gouriot, dans ses fameuses brèves de comptoir, cru ou plutôt millésime 1998, publié chez Michel Lafon, note ceci.
C'est pas des racines qu'il faut donner aux jeunes des banlieues. C'est un joli pot.
Et voilà, c'est dit. Et Eric, vous formez des décideurs politiques à la prise de parole en public et vous aidez également des acteurs de l'immobilier et même des promoteurs à présenter leurs dossiers. Alors comment est-ce que vous vivez ces expériences et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux paroles des deux Jacques ?
Je vis ces expériences avec beaucoup de bonheur, d'abord parce que ça me permet de rencontrer des équipes assez nombreuses, encore dernièrement à Lyon, des équipes assez formidables d'urbanistes, de sociologues, de promoteurs, d'architectes, de paysagistes qui proposent en général des projets assez importants à des municipalités, à des communes, à des départements. Donc voilà, il y a un moment, ils se trouvent confrontés au grand final, un oral, qui est le moment un peu compliqué pour eux, parce que c'est le moment où ils doivent raconter en 20 minutes, en une demi-heure, un projet sur lequel ils ont travaillé un an, deux ans, et ils doivent convaincre en racontant ce projet, en le faisant vivre devant les élus, devant les responsables, ils doivent décrocher le oui final qui leur permettra de mener à bien la construction d'un quartier, d'un très gros immeuble, d'un centre commercial. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'il faut à la fois travailler avec eux sur le storytelling, c'est qu'est-ce qu'on raconte, et puis comment on le raconte, donc comment on prend la parole, comment est-ce qu'on fait pour faire des phrases courtes qui racontent quelque chose, ne pas se perdre dans des chemins sinueux et boueux, et comment on se passe la parole les uns les autres au sein d'une équipe pour présenter. En général, on demande des équipes réduites, on n'arrive pas à 20, on arrive à 4-5 pour présenter le projet, donc voilà comment la parole peut être fluide entre les uns et les autres, comment on présente les choses. Donc c'est à la fois un travail de construction du discours et à la fois un travail d'expression orale. Donc c'est très intéressant pour un scénariste et comédien comme moi. Après, je me rends compte, ça fait pas très très longtemps que je fais ça, mais je me rends compte, par exemple, pour le projet à Lyon, là, qui est une ville écolo, avec un maire écolo en tout cas, que les préoccupations écologiques, les préoccupations d'empreinte carbone sont très présentes à l'esprit des promoteurs, des architectes, que le géosourcing des matériaux, que tout ça est très travaillé, très pensé, et c'est formidable parce que les immeubles n'en sont pas moins beaux, parfois ils le sont plus encore. Mais aujourd'hui, on fait des immeubles de 15 étages et des charpents de bois avec des isolations en paille. Enfin voilà, c'est assez formidable de travailler avec des gens qui ont su, des gens très âgés comme moi, de ma génération, des années 60, qui sont des architectes qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont su renouveler leur façon de travailler, renouveler leur méthode, repenser leurs actions et ce qui fait le fond de leur métier. Et ça, c'est assez génial. Donc voilà, je pense que les promoteurs, les architectes sont très à l'écoute et sûrement les politiques leur ont un peu forcé la main, mais voilà, c'est le jeu. les politiques forcent la main, et puis nous tous, même dans les théâtres, on fait attention. Les tournages aujourd'hui se veulent vertueux. On fait attention à ne plus jeter des kilotonnes de papier, de gobelets, de voilà. On fait toute attention à ça. Mais en tout cas, voilà, j'adore ce travail, moi, d'accompagnement, parce que c'est un travail qui me sort un peu du théâtre et des plateaux de tournage et des plateaux de radio, et qui me fait rencontrer les entreprises, les gens qui font et qui travaillent à ce que sera la ville de demain, par exemple, où je travaille aussi avec des entreprises, je travaille au ministère des armées, je travaille avec plein de gens, et c'est une façon de sortir de ce qui pourrait être, ce qui n'est jamais, mais ce qui pourrait être un train-train théâtral.
Alors, monsieur le promoteur, de grâce, coupez du tronc pour faire des bâtiments en bois, si possible français, la filière y travaille. Ne coupez pas mes fleurs, verdissez. Et puis, alors on arrive pratiquement au terme de la première partie, mais je ne résiste pas à l'envie de lire un tout petit peu d'un autre passage du Ventre de Paris, dans lequel il est question de fleurs. Et il y a un choc terrible entre les odeurs d'abats qui s'ajoutent à celles des déchets, où les viscères et les os usés se mêlent dans une fange tout à fait nauséabonde. Et là, comme aujourd'hui à Rungis encore, s'ouvre une parenthèse olfactive, celle du carré des fleurs. Et ici, plus précisément, des bouquets de Cadine, l'orpheline, et de son alter ego Marjolin, tous les deux tendrement cruels.
Méléal venait d'être construite. La petite restait en extase devant l'allée aux fleurs qui traverse le pavillon des fruits. Là, tout le long, les bancs de vente, comme des plates-bandes au bord d'un sentier, fleurissent, épanouissent de gros bouquets. C'est une moisson odorante, deux haies épaisses de roses, entre lesquelles les filles du quartier aiment à passer, souriantes, un peu étouffées par la senteur trop forte. Et, en haut des étalages, il y a des fleurs artificielles, des feuillages de papier où des gouttes de gomme font des gouttes de rosée, des couronnes de cimetière en perles noires et blanches qui se moirent de reflets bleus. Cadine ouvrait son nez rose avec des sensualités de chatte. Elle s'arrêtait dans cette fraîcheur douce, emportait tout ce qu'elle pouvait de parfum. Quand elle mettait son chignon sous le nez de Marjolin, il disait que ça sentait l'œillet. Elle jurait qu'elle ne se servait plus de pommade, qu'il suffisait de passer dans l'allée. Puis elle intrigua tellement qu'elle entra au service d'une des marchandes. Alors, Marjolin trouva qu'elle sentait bon des pieds à la tête. Elle vivait dans les roses, dans les lilas, dans les giroflées, dans les muguets. Lui, flairant la jupe, longuement, en matière de jeu, semblait chercher, finissait par dire « ça sent le muguet ». Il montait à la taille, au corsage, reniflait plus fort « ça sent la giroflée ». Et aux manches, à la jointure des poignets, ça sent le lilas. Et à la nuque, tout autour du cou, sur les joues, sur les lèvres, ça sent la rose. Cadine riait, l'appelait Bêta, lui criait de finir parce qu'il lui faisait des chatouilles avec le bout de son nez. Elle avait une haleine de jasmin. Elle était un bouquet tiède et vivant.
Et dans la suite, Cadine se met à confectionner des bouquets de violettes. Alors nous allons écouter un très court extrait d'un titre musical, un peu à la manière d'un jingle publicitaire de votre choix, Eric, qui pourrait résumer l'atmosphère mi-carnée, mi-florale qui régnait aux Halles.
À Parme, à Parme, on fait du bon jambon. À Parme, à Parme, la violette, à Parme, nous irons manger.
C'était Violette des Chantefleurs, les quatre jeudis de Jean Wiener.
Wiener, voilà. Jean Wiener, oui. J'adore, c'est une série que j'ai découverte totalement par hasard, grâce à un camarade très amoureux de vieillerie comme moi. Jean Wiener est un grand, grand compositeur de musique de film et de musique de scène du début du XXe siècle, et grand ami de Jean Cocteau. Il a écrit ses musiques sur des poèmes de Robert Desnos, excusez du peu, voilà, qui sont tous des poèmes à la gloire de fleurs. Donc il y a toutes les fleurs possibles, imaginables, de la jacinthe, de la jonquille. C'est toujours très court, ça dure toujours
40 secondes, une minute, une minute trente, et c'est toujours très charmant, très drôle et magnifiquement chanté. Voilà, les quatre jeudis étaient quatre messieurs qui chantaient ensemble, un peu comme les quatre barbus, comme les frères Jacques. Voilà, il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de ces groupes-là en France, et c'est assez beau, les chants de fleurs.
Alors reposons-nous quelques instants, sans jingle, parce qu'un jardin n'est pas qu'un lieu de contemplation ou de dur labeur, c'est un lieu pour vivre et pour pratiquer maintes facéties. Eric, vous avez une revendication, elle est chantée par Pierre Perret. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles le vol du bourdon, si la reine s'émerveille mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux, une jolie chenille est venue tremper une soupe au chou. Et un pauvre mille-pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble.
Donnez-nous des jardins, cette revendication très saine de Pierre Perret, qui je crois, Eric, vous me le disiez hors antenne, oui, vous a décidé à quitter la ville.
Mais bien sûr, c'était pour offrir des jardins à nos deux fils, Paul-Alexis et Pierre-Louis, que nous avons quitté Paris pour l'heure.
Et pour l'heure, deuxième partie.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Retour sur le plateau de Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville, en compagnie d'un homme de bonne compagnie, de compagnie d'acteurs, en compagnie d'un acteur, acteur et metteur en scène, entre autres, Eric Logérias. Les vacances approchent, c'est le moment de ralentir, de sortir de la ville. Lorsque l'année bat de l'aile, pourquoi ne pas aller voir la volaille ? Petit tour dans la basse-cour, ou plutôt à la mare, avec cette fable de Jean Anouilh, issue du recueil Fables, écrite à l'été 1961.
Des canards vexaient, des oies satisfaites. Au bord d'un étang, regardait passer un oiseau royal dont la fière aigrette les faisait glousser. Mais regardez donc, quelle outrecuidance, sans venir ici narguer le fermier. Vraiment, vous trouvez, c'est de l'élégance ? Si c'est ça le goût des grands couturiers ? Une robe grise, une robe blanche, voilà ce qu'il faut aux bêtes honnêtes. Pour rien au monde, je ne porterai d'aigrette, j'ai mis avec effroi une oie. À qui jamais quelqu'un n'en aurait proposé ? Et c'est un mal, criaient les canards courroucés. S'il devait travailler pour vivre, tout crotté, il aurait bien le temps de les lisser, ses plumes.
Un rayon de soleil qui sortit de la brume les fit taire un instant, inondant l'inconnu d'or et de pourpre au milieu de l'étang. Ils se reprirent vite et lui crièrent tant que l'homme, enfin prévenu, sortit, fusil en main, et du seuil de la ferme tira. L'oiseau blessé gagna la terre ferme, se coucha et mourut sans un regard à la basse-cour caquetante. Un peu plus tôt, un peu plus tard, ça devait arriver, dirent les oies contentes. Il n'a que ce qu'il est venu chercher. Que gagne-t-on à se faire remarquer ? Nous n'avons pas sur notre tête une couronne, mais du moins nous vivons, et la vie est bien bonne, conclurent-ils tous satisfaits. Le fermier prit l'oiseau, et pour sa fiancée, avec ses plumes d'or, fit un chapeau de fée. Aux fiançailles qui eurent lieu 2 jours plus tard, l'oiseau d'or fit rosir de joie la jolie femme, la jolie fille, qui se sentit belle et aimée. Pour le reste de la famille et pour le gros des invités, ne se nourrissant pas seulement de beauté, dans une bonne fricassée, chacun devant, un peu plus tôt, un peu plus tard, jouer son rôle, mesdames les oies et messieurs les canards passèrent à la casserole.
Et ni une ni deux, c'est à Souchon que nous songeons, lui qui dépeint la volaille et qui fait l'opinion. Extrait. Lors de vos balades, vous pouvez aussi arpenter les collines. Collines, c'est du reste le nom d'un des romans de Jean Giono, dont nous avons sélectionné un court extrait, cher Eric.
Oui, et avec bonheur. Ce silence sent bon. Le parfum des chèvrefeuilles et des genêts y coule en grandes ondes. Et puis, à quoi bon s'inquiéter des gestes de la terre ? Elle fait ce qu'elle veut. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Elle vit son petit train. « Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui, » dit Jeannet. « On dirait que tout est mort. Écoutez, on n'entend rien bouger. Ça, c'est mauvais. Apprends-le, mon fille. C'est d'une fois comme ça que c'est parti. Quoi ? Ça se dit pas. » Et Jeannet fixe ses yeux sur le calendrier des postes. Gondran passe sa bêche dans la courroie du carnier et se charge. Au bas des escaliers, il siffle son chien. L'abri, qui dormait sous un rosier, sort, s'étire, bâille, renifle la besace, suit. Et Gondran écoute joyeusement le grignotis des petites pattes onglées derrière lui. Dépassé le pré de Maurras, qui est à cheval sur la pente, le chemin est autant dire rien. Il se perd peu à peu dans l'herbe comme une eau sans force. Ce verger où il va, il l'a acheté l'an dernier à un de Pierre Vert qui faisait des sous pour prendre une adjudication de courrier postal. C'est dans le territoire de Rayanne, au Diable Vert. Mais il l'a eu pour un morceau de pain et les oliviers ont déjà payé. Somme toute, avec un petit travail, il a de l'huile et du bois. Seulement, c'est loin. C'est d'autant plus loin qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. Il faut passer par les bas-fonds, suivre des lits de torrents enchevêtrés de viornes et de ronces, tourner autour des collines dans des défilés sauvages où les pierres ont des visages comme des hommes mal finis. Gondran pense que la prochaine fois, il vaudra mieux suivre les sommets du côté de la Trinquette. Ça montera un peu, mais après, c'est une belle vue tout le long. Il y a bon air, on entend chanter les perdreaux. Ici, le silence est vraiment inquiétant. Heureusement, le chien fait compagnie. Vu du sommet de Pimaillon, le verger de Gondran est comme une tache de dartre dans la garrigue. Autour, le poil est sain, bourru, frisé. Mais là, La bêche de Gondran a raclé la peau. C'est un verger en pente sur le flanc gras de la colline, à l'endroit où les ruisselets laissent l'alluvion. Sous lui, le torrent a fendu la terre d'une fente étroite, noire, et qui souffle frais comme la bouche d'un abîme. Un vieil aqueduc romain l'enjambe. Ses deux jarrets maigres et poudreux émergent des oliviers. D'abord, Gondran a creusé un trou sous le genévrier le plus touffu, et quand il a atteint la terre noire, il a mis sa bouteille au frais. Il a choisi une bonne branche à l'abri des fourmis pour pendre son carnier, puis, manches troussées, il s'est mis au travail. Et l'acier de sa bêche a chanté dans les pierres.
L'acier de sa bêche a chanté dans les pierres. On peut arpenter les collines, mais on peut aussi flâner et on peut marcher. L'été, c'est la saison idéale pour se mettre en marche. Alors, vous connaissez les chemins noirs de Sylvain Tesson. Il y avait, bien avant lui, Jacques Lacarrière, chemin faisant. Nous pourrions citer, avant encore, les rêveries du promeneur solitaire, où Jean-Jacques Rousseau aime à herboriser et rien d'autre, ou encore Théodore Monod, qui a traversé le XXe siècle et aussi le Sahara, qui, notamment dans Le chercheur d'absolu, dit ce que marcher dans le désert lui procure. Et nous avions ici passé un magnifique titre d'Alain Souchon à propos de ce fameux Théodore. Mais j'aimerais terminer cette émission, ou plutôt que vous terminiez cette émission, cher Éric, pour rejoindre Mon Sahara. C'est une auto-dédicace partagée avec tous les miens, si jamais ils écoutent cette logorée. C'est en quelque sorte un double hommage à Axel Kahn, auteur des lignes qui suivent et qui récemment nous a quittés et qui a entrepris en 2011 deux marches à travers les Diagonales de France. Et c'est aussi un hommage à mon forêt natale et en particulier aux Hautes-Chaumes, sur les hauteurs de Montbrison, au col du Béal et au col des Super, les lieux que de tous, je préfère. Le Muséum d'Histoire Naturelle, où officiait Théodore Monod, il y a d'ailleurs une chaumière qui sert d'observatoire et ce n'est probablement pas un hasard. Extrait d'un texte de 2013, issu du livre « Itinéraire d'un chercheur » d'Axel Kahn.
Du col de Béal, où j'étais dès 8 heures, jusqu'à Pierre-sur-Haute, le point culminant à 1640 mètres, et en fait par la suite sur la ligne de crête entre Auvergne-Puy-de-Dôme et Rhône-Alpes, Loire, j'ai rencontré là le vent le plus puissant que je me rappelle avoir jamais eu à affronter. De profil, les bourrasques parvenaient à déformer mon visage de manière grotesque. Dans ces conditions, impossible de garder une casquette sur la tête alors que le soleil fut vite ardent. Il fallait ne rien poser de léger sur le sol qui ne fût arrimé, porte-carte ou vêtements. Et puis, bien sûr, aucun rempart protecteur n'existe sur les hautes chaumes du forêt. Presque pas d'arbres, juste des arbrisseaux solitaires et rabougris, pas de parois rocheuses, juste des ondulations arrondies à une altitude variant entre 1400 et 1600 mètres. En face, à l'ouest, la chaîne des Puits d'Auvergne est moins élevée. Le Cantal, sensiblement à la même hauteur, et le massif du Sancy guère plus haut. Rien, par conséquent, pour s'opposer à la fureur du vent. J'ai un faible pour ces immenses étendues où rien n'arrête le regard, où l'on perçoit mieux qu'ailleurs la notion d'infini et où le terme de solitude prend une nouvelle dimension. Non seulement j'étais seul, mais percevant jusqu'à l'infini, je n'y voyais personne de notre espèce. Je ne connaissais pas ces lieux. Ils sont fort peu touristiques. J'en ai été ébloui, presque bouleversé. François Mitterrand avait envisagé d'acquérir quelques arpents de terrain sur le mont Beuvray afin d'y faire installer sa sépulture. Pour ma part, ce serait bien là où j'étais hier, dans les hautes chaumes du forêt, près d'un petit arbre solitaire et en la seule compagnie des gentils chevaux et de vaches placides. L'éternité est après tout une dimension de l'infini.
Merci, merci infiniment, Éric, pour ces lectures. Et on termine sur une note émouvante, mais je vous invite toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous aussi, à vous rapprocher de la nature, au moins le temps des vacances et évidemment à visiter le Haut-Forêt, mais aussi l'ensemble des régions de France. Radio Imo et Radio Territoria vous donnent l'occasion de vous évader et de dialoguer sur les relations entre le vivant et la ville toute l'année grâce à cette émission. Nous espérons, chères auditrices, chers auditeurs, que vous suivrez nos pérégrinations littéraires dans vos oreilles, que vous soyez en voiture, en train, à vélo, à bicyclette ou en marchant pour trouver un repos estival mérité et que ça vous aura donné de lire ou de relire des classiques que nous avons eu, je crois, Eric, hein, beaucoup de plaisir à parcourir ensemble. Eric, je vous laisse retourner à un prochain stage de comédie avec le professeur François Rollin.
Absolument, nous faisons un stage sur le seul en scène à Boulogne-Billancourt, ancienne ceinture verte de Paris et pas très loin des bois. Voilà, presque à la nature. Mais je compte bientôt faire des stages vraiment à la campagne pour emmener les comédiens citadins prendre le verre en même temps dire quelques vers.
Eh bien, prendre le verre, partager, boire un verre et réciter des vers. Bonnes vacances à toutes et à tous. Cette émission et cette saison entière qui s'achève ont été permises grâce au Jardin de Galie, grâce aux fabuleuses équipes de Web Radio Édition, Olivier, Sylvain, Christophe, le jardinier journaliste qui se reconnaîtra, et à la technique, Baptiste, Jason et Théo. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.